100% d'Europe, Frédéric Lebel.
L'Europe a donc déclaré la guerre aux passeurs. L'opération navale a théoriquement été lancée hier. Des patrouilles vont pouvoir désormais traquer en haute mer les réseaux de bateaux qui embarquent les migrants. Pas étonnant que la voie terrestre des Balkans soit donc désormais de plus en plus choisie. La route entre la Serbie et la Hongrie est la troisième voie d'accès pour atteindre l'Europe du Nord, si bien que la Hongrie annonce la construction d'un mur de barbelés sur sa frontière. Avant d'atteindre la Serbie, beaucoup de migrants transitent par la Macédoine, une route où les criminels sévissent, kidnappent et rançonnent les étrangers. C'est le reportage à la frontière de Daphné Gastaldi.
Tous les jours, des centaines de migrants suivent à pied la ligne de chemin de fer entre la Macédoine et la Serbie. Surtout des Syriens, des Afghans ou des Somaliens. Et à leur risque et péril, car des gangs leur réclament un droit de passage, des euros ou des téléphones portables. Pire, certains d'entre eux sont parfois kidnappés et emprisonnés dans des maisons juste avant de passer la frontière. Un habitant des alentours a pris le risque de nous conduire à Vaksince, un village proche de la Serbie, au cœur de ce trafic d'êtres humains.
On est maintenant à l'entrée du village de Vaksince, le village le plus proche de Loyane. Personne ne sait exactement ce qu'il se passe, mais on les voit marcher sur la route, ils souffrent beaucoup.
Il faut se faire discret dans cette zone où des passeurs armés rackettent des migrants en échange de leur liberté. En quelques minutes, nous apercevons néanmoins de petits groupes, à pied ou en voiture, conduits dans des maisons près de la mosquée. Des hommes à scooter semblent surveiller les lieux, mais ce trafic se fait au vu et au su de tous. Et un nom, ou plutôt un surnom, revient régulièrement. Alibaba
est le boss du réseau criminel. Ils interceptent les réfugiés. Un réfugié ne devrait rester ici qu'une seule nuit, mais Alibaba les retient 2 semaines ou 1 mois. Il vit près de la mosquée de Vaksince.
Tout le monde le sait.
Yes, everyone knows.
Oui, tout le monde est au courant.
Difficile d'en savoir plus, mais de l'autre côté de la frontière, en Serbie, la parole se libère. Près du poste de police, les migrants qui ont réussi à franchir la frontière attendent des papiers. Un Tunisien parle de son séjour forcé dans la maison d'Ali Baba, à 5 km de là, du côté macédonien. Il a dû payer 500 euros pour être libéré.
Ali Baba, mafia. Lui, il travaille avec 30 personnes. Afghanistan et Pakistan qui forçaient pour les personnes si tu donnais l'argent hégeras en Europe, sinon tu donnais l'argent tu restes à la maison pour force avec les pistolets, avec les couteaux, un grand couteau.
Ils vous ont amené de force dans la maison?
Oui, pour force, groupe, descend tous les jours.
Un peu plus loin, un jeune Syrien de Damas raconte une histoire similaire. De façon anonyme, car il a peur, il vient de quitter une de ses maisons dans un village près de Loyane, où sont retenus des dizaines de migrants, dont des familles et des enfants.
Je suis resté dans une maison de la mafia pakistanaise à Loyane pendant 2 jours. Quand tout le monde a donné de l'argent à un certain Souleymane Pakistani, ils nous ont promis de nous conduire en bus en Serbie, mais ils mentaient. On a marché.
Walking.
Les migrants rencontrés décrivent ces criminels comme étant albanais, afghans ou bangladais. Et ils sont armés, comme en témoigne Guies, un Syrien rencontré au centre de demandeurs d'asile de Krenjača à Belgrade.
Ils portaient couteaux et pistolets vers Loyane. Ils nous ont retenus dans une maison. Une fois que les rebelles ont récupéré leur argent, tu peux partir. Si tu ne paies pas, tu dois rester, travailler, nettoyer leur maison. Une semaine, 2 semaines, jusqu'à ce que tu paies.
You can go. En Macédoine, la société civile commence à s'inquiéter de ces témoignages récurrents. Mercia Smailovic est avocate des droits de l'homme. Début juin, cet activiste de l'association pro-migrante Legis dressait un constat amer.
Avec Sinse, des journalistes ont révélé la présence d'un gang qui kidnappe les migrants, les intercepte et les force à venir dans cette maison. Ils doivent payer entre 500 et 1000 euros pour être libérés. S'ils n'ont pas d'argent, ils les emmènent retirer du cash à Western Union. Ça fait 2 mois qu'on a entendu parler de cette histoire. On est allé à Vaxinse la semaine dernière et la maison est toujours là. Rien n'a été fait pour les arrêter.
Les autorités ont été accusées de fermer les yeux et des policiers locaux sont même soupçonnés de participer à ce trafic de personnes. Mais il y a quelques jours, la police est enfin intervenue à Vaxinse et 4 personnes ont été écrouées. Ivo Kotevski est le porte-parole du ministère de l'Intérieur.
We have done this operation in Vaxinse, this raid.
On a fait un raid à Vaxinse et on a trouvé 128 migrants. On a fouillé 10 maisons. S'il y a des policiers impliqués, ils seront inquiétés.
Est-ce que vous avez trouvé des armes là-bas, des couteaux, des revolvers?
On a trouvé un pistolet et un couteau, je crois.
Ce week-end, la police a de nouveau mené une opération à Vaxinse et dans la ville de Kumanovo. Un coup de filet même, puisque 12 autres personnes ont été arrêtées pour trafic de migrants, dont un homme surnommé Bangladesh. Il serait le chef de ce gang international.
Un reportage de Daphné Gastaldi à retrouver sur la page Accent d'Europe du site de RFI avec les photos d'Alberto Campi de We Report. Daphné, vous êtes rentrée de Macédoine il y a quelques jours. Comment la situation évolue-t-elle ?
Eh bien, on peut dire que tout s'est accéléré dernièrement, notamment avec la médiatisation de ces kidnappings de masse bien connus en Macédoine. Lorsque j'étais à Vaxinse, un sujet a été diffusé par Channel 4 sur ces maisons où sont séquestrés les migrants. Un reportage mettant en cause la police macédonienne et la réaction ne s'est pas fait attendre. Les policiers ont enfin mené une opération dans le village le 11 juin. Mais surtout, ce samedi, la police a encore arrêté 12 personnes à Vaxinse et dans la ville de Kumanovo, dont le chef présumé du trafic. Le ministère des Affaires intérieures a même mis en ligne une vidéo de l'opération. On y voit des véhicules encerclés de nuit, des perquisitions dans les maisons. À la caméra, les policiers montrent les liasses de billets de 50 euros, des cartes SIM, des téléphones portables ou des tablettes trouvées sur place. 2 armes ont été saisies. L'enquête se poursuit toujours. Il y aurait au moins 4 autres personnes de ce gang en fuite.
La police agit donc, mais comment faire pour empêcher ce trafic à long terme ?
Si ce trafic existe, c'est en partie dû au fait que les migrants doivent se cacher de la police pour traverser le pays. Jusqu'à présent, ils n'avaient pas le droit d'utiliser les transports en commun, ce qui les rendait vulnérables. Pendant leur marche, ils tombaient dans des embuscades ou entre les mains des passeurs. Or, les associations pro-migrants ont fait du lobbying auprès du gouvernement pour laisser les migrants monter dans les trains ou dans les bus avec une condition, quitter le pays au bout de 3 jours. Et les associations ont réussi. Le Parlement macédonien vient tout juste d'adopter un amendement à la loi sur l'asile pour autoriser les migrants à utiliser ces transports en commun. Pour Mohamed Arif, le représentant du Haut Commissariat aux réfugiés à Skopje en Macédoine, cela va permettre d'éliminer au moins 60% du réseau des passeurs. Écoutez.
Everybody who would like to be registered here.
Tous ceux qui le voudront pourront s'enregistrer à leur point d'entrée dans le pays. Une fois que la loi sera effective, ils pourront aller s'enregistrer à la police. Ils auront un document pour 72 heures. Et ces 72 heures-là seront cruciales. Ils décideront de rester et demander l'asile ou de continuer leur voyage. De cette façon, ils ne se cacheront pas de la police et ils seront moins entre les mains des passeurs. Ils pourront prendre les transports publics et non plus emprunter cette route dangereuse. Cette loi va beaucoup les aider. Cela va permettre de diminuer leur dépendance aux passeurs.
C'était Mohamed Arif, le représentant de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés à Skopje. Et cette loi dont il parle est entrée en vigueur plus vite que prévu. Sur place, les associations ne voient plus trop de migrants sur les routes. Ils peuvent déjà traverser le pays en train ou en bus pour rejoindre Belgrade et sans passeur.
Et Daphné, après avoir traversé la Macédoine, quel trajet empruntent les migrants pour rejoindre l'Europe du Nord ?
Les Syriens, les Afghans, les Somaliens ou encore les Érythréens ne comptent pas rester en Macédoine car ils veulent atteindre la Serbie. pas pour y rester non plus, même si le nombre de demandes d'asile a atteint en 5 mois le double des demandes de 2014. Mais pour la majorité, le but est d'arriver en Hongrie, qui fait partie de l'Union européenne et de l'espace Schengen. Depuis le début de l'année, près de 60 000 personnes sont entrées illégalement dans ce pays, ce qui prouve que la fréquentation de la route des Balkans est en hausse. De là, les demandeurs d'asile veulent rejoindre l'Allemagne, l'Autriche, l'Angleterre ou encore la Suède. Mais cette route migratoire pourrait être déviée, car la Hongrie a décidé de fermer sa frontière avec la Serbie face à ce pic d'arrivée de migrants. Et le gouvernement hongrois a même annoncé la création d'un mur de presque 200 km de long et de 4 mètres de haut. Un nouveau mur anti-réfugiés en Europe.
Merci Daphné Gastaldi. On vous retrouve demain avec le collectif We Report pour un autre reportage sur les réfugiés syriens qui traversent la Macédoine à vélo, justement pour éviter les criminels. Et s'il est un pays qui accueille de nombreux réfugiés syriens, c'est bien la Turquie. 2 millions de personnes qui ont fui la guerre. Pour l'immense majorité, trouver un toit, se nourrir, scolariser les enfants mobilise l'essentiel de leur énergie. Mais certains essaient aussi de faire vivre leur langue et leur culture par le biais d'initiatives locales. C'est le cas de cet éditeur syrien qui a ouvert une librairie de langue arabe à Istanbul. Anand Lauer était à l'inauguration.
Une jolie maison en bois vert dans une impasse calme et ombragée, à 20 mètres de l'un des plus beaux endroits d'Istanbul, l'église Saint-Sauveur Inkora. Sur 4 étages, des dizaines d'étagères et de piles de livres en arabe, principalement, mais aussi en turc, en anglais, en français. La librairie Pages est le dernier né d'un couple d'éditeurs syriens, Samir El Kadri et Gulnar Adjo, fondateurs à Damas de la maison Bright Fingers, spécialisée dans le livre pour enfants. Il y a 2 ans et demi, menacé par le régime, le couple a quitté Damas pour la Jordanie, puis un an plus tard pour la Turquie. Dans ce pays où vivent près de 2 millions de Syriens fuyant la guerre, et dans une ville en particulier, Istanbul, où sont désormais réfugiés plus de 350 000 d'entre eux, Samir El Kadri rêvait de proposer des livres dans sa langue maternelle.
Il y a peut-être d'autres librairies en arabe à Istanbul, mais ce sont des librairies islamiques. Ici, vous trouverez de tout, de l'islam à Marx. Les Syriens ne sont pas heureux. Tous, nous nous débattons dans les difficultés. Mais nous devons revenir à la vie. Et les livres, c'est la vie.
La librairie Pages est plus qu'une librairie. C'est un café où l'on peut emprunter, consulter les ouvrages. Un espace culturel pour accueillir des projections, des expositions, des workshops. L'éditrice turque Zeynep Sevdepaksu est l'une des 9 personnes à l'origine de ce projet.
Les Syriens en Turquie ne sont vus que comme des réfugiés, alors qu'avec eux, c'est aussi toute une culture et toute une richesse intellectuelle qui se sont réfugiés chez nous. Mais les Turcs ne les voient pas. Ils ne voient pas tous ces écrivains, ces journalistes, ces poètes, ces ingénieurs, ces médecins syriens. Notre but est de créer un espace de rencontre entre Turcs et Syriens, pour aller au-delà de l'image du Syrien qui mendie au feu rouge. Bien sûr que ces Syriens-là existent et qu'il faut les aider. Mais il faut aussi voir, connaître et soutenir les intellectuels syriens en Turquie.
Des Syriens de tous âges d'ailleurs. Le dernier étage de la librairie, coloré du sol au rideau, est consacré aux livres pour enfants en arabe. Ils attendent les milliers de petits Syriens qui grandissent à Istanbul, loin de leur pays, loin de leur école.
Cela s'appelle une petite révolution fiscale. En France, les impôts seront prélevés directement à la source à partir de 2018. La méthode est déjà appliquée chez nombre de nos voisins européens. Pour en parler, on retrouve Daniel Vigneron du site myeurope.info. Bonjour Daniel.
Bonjour Frédéric.
Qu'est-ce qui va changer alors pour les contribuables français ?
Le Conseil des ministres de mercredi dernier a effectivement confirmé que le prélèvement à la source serait mis en œuvre à partir du 1er janvier 2018. Alors en 2017, les salariés vont payer comme d'habitude leur impôt de 2016, mais dès janvier 2018, ils paieront chaque mois leur impôt en temps réel, c'est-à-dire sur leurs revenus de cette même année 2018. 2017 sera donc une année blanche, dans le sens où aucun impôt ne sera perçu au titre des revenus de l'année 2017. Mais ne rêvez pas, Frédéric, il n'y aura pas d'année sans impôt. En 2017, on paiera pour 2016 et en 2018, pour 2018. L'année blanche est donc l'expression d'une réalité purement comptable. En fait, Seuls ceux qui auront des revenus plus élevés en 2017 qu'en 2018 bénéficieront d'un avantage fiscal. Mais Bercy a déjà prévenu que des mécanismes anti-abus seront indispensables afin d'empêcher que certains adeptes de l'optimisation fiscale chargent la barque de leurs revenus sur l'année d'exonération plutôt que sur l'année de taxation. Ainsi, les contribuables devraient échapper à la double imposition qui aurait consisté à payer en 2018 pour 2017 et pour l'année en cours. L'impôt sur les revenus de 2017 aurait également pu être étalé sur plusieurs années, comme ce fut le cas en Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, quand ces pays sont passés au prélèvement à la source.
Et l'impôt à la source a-t-il été adopté partout en Europe ?
Oui, tous les pays de l'Union européenne l'ont adopté. Et certains depuis longtemps, en partant du principe qu'avoir un salaire doublement net de charges sociales et d'impôts, c'est plus simple et plus clair, du moins en principe. Car ce prélèvement direct sur le revenu à la source peut devenir une usine à gaz si on veut prendre en compte les statuts particuliers de chaque contribuable.
Alors justement, expliquez-nous.
Eh bien, si vous prélevez les impôts sur les salaires, le plus simple est d'estimer que chacun paie individuellement des impôts en fonction de ses seuls revenus salariaux. Il n'y a alors pas de modulation en fonction, par exemple, de la situation familiale des contribuables. Pas de coefficient familial, c'est-à-dire pas de nombre d'enfants à charge. Les Britanniques ont été jusqu'au bout de cette logique. Au Royaume-Uni, la notion de foyer fiscal est inconnue. Depuis 1944, année du passage au prélèvement à la source, outre-Manche, les impôts sont déduits des salaires et sont calculés individuellement. Être marié ou avoir des enfants n'a donc aucune incidence sur le montant des impôts. Quant aux revenus hors salaire, comme les revenus locatifs ou les revenus de placement financier, ils sont déclarés séparément par chaque contribuable.
Et quel a été le premier pays en Europe à imposer à la source ?
C'est l'Allemagne. Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu remonte à 1808 en Prusse orientale. La Bavière a suivi en 1814 et cet impôt à la source a été généralisé à l'ensemble de l'Allemagne dès 1920. Depuis, les employeurs sont chargés de prélever directement cet impôt sur le salaire de leurs salariés avant de le reverser aux administrations fiscales des Länder. Mais dans le cas allemand, on tient compte de la situation familiale. Quand il est recruté, le salarié doit donner à son employeur sa carte d'impôt remise par l'administration. Chose impensable en France, les employeurs savent ainsi tout sur la vie privée de leurs employés, notamment s'ils sont mariés, célibataires ou divorcés, le nombre d'enfants dont ils ont la charge et même leur religion.
Et pourquoi la religion ?
Parce que, comme vous le savez, Frédéric, on paie également un impôt du culte prélevé à la source en Allemagne. À moins de se déclarer athée, ce qui est toujours possible, ce denier du culte obligatoire est prélevé par l'administration pour le compte de votre communauté religieuse. Son montant est très loin d'être symbolique, de 9 à 10% de l'impôt sur le revenu. Il est difficile de frauder. Un Français vivant à Berlin, qui s'était déclaré sans religion, a été rattrapé par l'Église allemande qui avait découvert qu'il avait été baptisé. Quant aux revenus du capital outre-Rhin, ils sont eux aussi prélevés à la source par les banques et autres organismes financiers.
Et quels sont les pays où il est très compliqué de prélever les impôts à la source ?
C'est certainement en Belgique et en Italie. En Belgique, on a mixé prélèvement à la source et calcul sur l'année antérieure. Cette retenue fiscale différée porte le doux nom de précompte professionnel. Son montant est calculé en fonction de la situation familiale du salarié et cela prend en compte tous les revenus, y compris ceux du capital. C'est le salarié qui déclare ses impôts, mais c'est à l'employeur de les prélever en les déduisant du salaire.
Et en Italie aussi, c'est assez complexe.
L'impôt est retenu chaque mois sur les salaires, mais ces prélèvements sont ensuite déduits de l'impôt final, déclaré individuellement par chaque Italien, quelle que soit sa situation familiale. En effet, comme au Royaume-Uni, la notion de foyer fiscal n'existe pas en Italie, mais avec cependant une différence de taille, puisque dans ce pays, de multiples déductions sont liées au nombre d'enfants pour chacun des parents. C'est tellement compliqué que de nombreux contribuables doivent s'adresser à un fiscaliste, d'autant que les erreurs sont lourdement pénalisées, alors que l'heure n'est plus du tout au laxisme fiscal dans la péninsule.
Beaucoup de travail en perspective donc. Merci Daniel Vigneron, à la semaine prochaine.
À bientôt Frédéric.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous aussi sur Facebook et sur Twitter. À demain.